RFI, 9h30, à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis.
Arrêté mercredi soir, libéré dans la journée de vendredi, puis réinterpellé quelques heures plus tard. Trois journalistes de la radio Sahara FM d'Agadez au Niger, toujours détenus à la gendarmerie. Ils avaient relayé des informations du média LSI Africa sur des contrats commerciaux entre le Niger, la Russie et la Turquie. La réaction du président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine dès le début de ce journal. Non, les autorités marocaines n'ont plus recours à l'abattage massif de chiens errants. C'est en tout cas ce qu'elles assurent après des accusations en début d'année de plusieurs associations internationales de la cause animale. 3 millions de chiens courraient les rues du royaume. Véritable défi pour Rabat, à 5 ans de la co-organisation de la Coupe du Monde. La mort de Koyokuo, décédée à l'âge de 58 ans, elle devait être l'année prochaine la première africaine commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise. Et puis cette question, et si les chimpanzés maîtrisaient l'art musical? Une étude très sérieuse montre qu'ils sont capables de communiquer en tambourinant, le tout très en rythme. Trois journalistes de la radio Sahara FM toujours détenus à la gendarmerie d'Agadez. Ils avaient pourtant été, dans un premier temps, libérés par un juge. C'était vendredi, quelques heures après une première interpellation, avant d'être finalement réinterpellés et placés en garde à vue. Tous trois avaient repris une information diffusée par le média en ligne LSI Africa sur une affaire concernant le Niger, la Russie et la Turquie et mêlant contrats commerciaux et espionnage. Ce matin, Noël Yao réagit sur RFI. Le président de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine demandent leur libération.
Chaque fois qu'un journaliste est interpellé de la sorte, c'est d'abord l'indignation. Ce qui est reproché à nos trois collègues, c'est d'avoir relayé une information du site LSI. L'information, selon notre base au Niger, n'a pas été suffisamment vérifiée. Mais nous plaidons pour, dans ces cas-là, passer par les organes de régulation ou alors par le droit de réponse, plutôt que d'embastiller, d'interpeller les journalistes. La place des journalistes, ce n'est pas la prison. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, évidemment, ne peut que demander la libération de nos trois collègues journalistes. S'il y a un droit de réponse, ils le feront. Il faut arrêter de toujours choisir la voie de la répression.
Le président de l'UJPLA, Noël Yao, joint par David Baché. David Baché qui vous raconte dans une demi-heure le prochain journal l'agression au couteau qu'a subi au Mali l'une des figures du mouvement pro-démocratie, Cheikh Oumar Doumbia, a pu s'échapper grâce à l'intervention de certains de ses proches. Agression qui survient après une série d'enlèvements ou tentatives d'enlèvements ces derniers jours à Bamako. Voilà un an en Tunisie que sont emprisonniers Sonia Damani, Mourad Zeghidi et Boren Msaïs. Ces deux derniers condamnés à 8 mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles, mais toujours derrière les barreaux dans le cadre de suspicions de blanchiment d'argent. Sonia Damani, elle, a été condamnée à 1 an et demi, là aussi pour diffusion de fausses nouvelles. Lilia Blaise, depuis Tunis, fait le point sur ces affaires judiciaires, symbole de la répression en Tunisie.
Pour les avocats et la famille du journaliste Mourad Zeghidi, les 1 an dans emprisonnement doivent être l'occasion de se remobiliser. Myriam Zeridi est la sœur de ce journaliste.
On parle aux médias parce qu'on atteint les 365 jours et que ça commence à devenir inadmissible que Mourad continue à être en prison.
Elle attend une éventuelle remise en liberté provisoire après l'audience de son frère, prévue pour le 15 mai, dans le cadre d'une affaire de suspicion de blanchiment d'argent. Une libération que réclame aussi l'un de ses avocats, Razim Rabet.
Mourad garde espoir. Il garde espoir dans les institutions, dans la justice, malgré tout ce que on lui fait subir.
Sa collègue, l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmeni, purge une peine de prison et reste actuellement poursuivie dans le cadre de 3 autres affaires concernant ses analyses politiques. Son avocat Shawki Tabib évoque une situation délicate.
L'espoir est toujours permis, mais le dossier est tributaire de la volonté du pouvoir politique actuel d'entamer une certaine ouverture politique ou pas.
Selon le syndicat des journalistes, 4 journalistes sont actuellement emprisonnés et près d'une quinzaine font l'objet de poursuites judiciaires. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Le compte à rebours a commencé au Maroc. Le Royaume accueille la Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année, mais surtout une partie de la Coupe du Monde 2030. Et en début d'année, des associations internationales de la cause animale accusaient les autorités d'abattage massif de chiens errants. Il serait quelque 3 millions dans le pays. Mais les autorités, qui affirment avoir renoncé depuis longtemps à ces pratiques, viennent d'annoncer un programme ambitieux pour réduire leur nombre. RFI Casablanca, Mathias Reynal.
Aucun abattage massif n'est prévu au Maroc avant la Coupe du Monde 2030.
Notre pays s'est engagé depuis 2019 à appliquer la méthode TNVR, qui consiste à capturer les chiens errants, les stériliser pour empêcher leur reproduction, les vacciner contre la rage, les déparasiter, les identifier par des boucles à l'oreille et les relâcher. C'est aujourd'hui la seule solution pour gérer la problématique des chiens errants et limiter les nuisances.
Mohamed Roudani est le chef de la division de l'hygiène et des espaces verts au ministère de l'Intérieur marocain. Selon lui, l'abattage n'est pas une réponse durable face à la menace que font peser les chiens errants sur la santé publique.
Si on vide d'une manière brutale un territoire de ces chiens, très rapidement les jours qui suivent, d'autres chiens vont arriver pour s'approprier le territoire.
Ainsi, près de 80 millions de dirhams ont déjà été investis et le ministère de l'Intérieur entend poursuivre les efforts. Salima Kadawi, présidente de l'association du Sanctuaire de la Faune de Tanger.
Le grand souci, c'est les vétérinaires qui ne sont pas intéressés à faire des stérilisations. Si on pouvait changer la loi et laisser que les organisations internationales puissent venir et faire des stérilisations de masse, on pourrait vraiment lutter et réduire la population canine et féline très très vite.
Un projet de loi sur les animaux errants a été élaboré pour renforcer les actions du gouvernement. Le texte prévoit également des sanctions contre la maltraitance animale. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
RFI, 8h36 à Yaoundé. Koyokuo s'en est allé, figure majeure de la scène artistique africaine. La Suisso-Camerounaise devait être la commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise en 2026, Lisa Giroldino.
Elle devait être la première femme africaine nommée à ce poste par l'institution italienne, référence mondiale en matière d'art contemporain. Née à Douala, au Cameroun, Koyokuo a grandi en Suisse avant de s'installer à Dakar en 1996. C'est dans la capitale sénégalaise qu'elle a débuté sa carrière de curatrice indépendante. C'est ici aussi qu'elle a fondé le centre d'art et de réflexion Raw Material Company, compagnie de la matière première. Koyokuo a participé à des événements artistiques majeurs comme la Biennale de Dakar et les rencontres africaines de la photographie de Bamako, avant de prendre en 2019 la tête du Zeitz Moka au Cap, le plus grand musée d'art contemporain d'Afrique. Spécialiste des artistes africains et de la diaspora, elle a mis en lumière des figures comme Abdoulaye Konaté, Tracy Rose ou encore Marie Evans. Personnalité très respectée, engagée, panafricaniste, Koyokuo a défendu toute sa vie l'influence mondiale des cultures africaines dans le paysage artistique contemporain.
Son décès laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain, a communiqué la Biennale de Venise. Elle indique que Koyokuo devait présenter dans 10 jours le titre et le thème de l'édition 2026. De son côté, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a exprimé hier samedi son profond chagrin. En Côte d'Ivoire, c'est hier que le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, a refermé ses portes. C'était la 15e édition. Le parc des expositions de Port-Boué a vibré au rythme des livres cette semaine. Mais aussi des lectures et des débats. Le rendez-vous célèbre chaque année les littératures du monde entier et met en lumière les talents nationaux mais aussi ceux du continent africain. Abdoulaziz Diallo est allé y faire un tour pour RFI. Reportage.
Difficile de se frayer un chemin dans les allées bondées du SILA. Petits et grands se pressent autour des stands à la recherche d'un roman, d'un recueil de poésie ou d'une bande dessinée à emporter. Un engouement qui ravit la romancière Mawa S. Bakayoko.
Cette fréquentation est en hausse. Ça veut dire que quelque part le message d'éducation d'amener les Ivoiriens à la lecture porte ses fruits.
Le SILA, c'est aussi une opportunité économique pour les auteurs. Mais pour les jeunes plumes, la partie est loin d'être gagnée. Fulgence Nchou, auteur depuis 2 ans, n'a vendu qu'une 20aine de livres en 5 jours.
Ces personnes ont des idées déjà arrêtées sur certains livres. Des auteurs qu'ils connaissent souvent dans les écoles, c'est ceux qu'ils viennent chercher. Oh, ils ne cherchent pas à découvrir d'autres livres. C'est ça un peu qui crée le problème.
L'accès aux livres reste aussi freiné par son prix. Le coût du papier pèse lourd, regrette Anzata Ouattara, écrivaine et éditrice.
On aimerait pouvoir faire des livres abordables pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais le prix du papier fait que les imprimeurs sont
vraiment contraints de faire des prix très élevés et c'est difficile.
Pour promouvoir la lecture, notamment auprès des plus jeunes, le ministère de la Culture et de la Francophonie mise entre autres sur les centres de lecture et d'action culturelle. Il en existe 19 à travers le pays et les livres y sont accessibles gratuitement. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et puis un mot de science pour refermer ce journal et cette question. Et si les chimpanzés étaient capables de battre la mesure ? Question très sérieuse. Et une étude publiée dans la revue Current Biology prouve que cette espèce de primate peut tambouriner en rythme. Des scientifiques ont analysé plus de 370 enregistrements collectés auprès de 11 communautés de chimpanzés issues de 6 groupes vivant dans la forêt humide ou dans la savane. Alors les singes sont-ils musiciens ? Pourquoi tambourinent-ils en rythme ? Les précisions de Pauline Glaise.
Ces coups seraient un mode de communication longue distance. En tambourinant sur des arbres, les chimpanzés émettent des sons basse fréquence, perceptibles à plus d'un kilomètre. Encore faut-il se distinguer dans la cacophonie de la nature, analyse Vesta Eleuteri, autrice principale de l'étude.
Le fait qu'il y ait une séquence, ça indique que ce n'est pas seulement un arbre qui tombe. Ça fait comprendre aux autres que c'est un chimpanzé qui tape.
Et tous n'ont pas le même style. En Afrique de l'Ouest, les chimpanzés battent à intervalles plutôt réguliers. Ceux de l'Est du continent alternent plus fréquemment intervalles courts et longs.
Il est possible que ce soit dû à des facteurs sociaux, alors que les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest sont plus pacifiques et sont très souvent ensemble. Les chimpanzés d'Afrique de l'Est sont plus souvent séparés et plus agressifs envers les autres groupes. Donc cette alternance de rythmes courts et longs, c'est peut-être une manière de dire d'autres choses et de distinguer les individus de manière plus marquée.
Des percussions non aléatoires, c'est l'une des briques élémentaires de notre musique. Cela ne signifie pas que les singes jouent de la musique comme les hommes, mais cela accrédite la thèse selon laquelle des ingrédients de la musicalité chez l'homme existaient avant la séparation entre humains et chimpanzés, il y a 6 millions d'années.
Voilà, les singes qui jouent peut-être aussi bien de la musique que les hommes. C'était un sujet signé Pauline Glaise du service environnement climat de RFI.
C'est absolument extraordinaire. Merci Nemo Ampis, bonne journée à vous.